France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Jeannine Rose. Je suis née en 1943 à Aurillac dans le Cantal et je suis entrepreneur de spectacle.
Hier, Jeannine Rose nous confiait la genèse des concerts du dimanche matin, les premières années à Orsay, puis au théâtre du Rond-Point et au théâtre des Champs-Élysées, les premiers artistes, l'esprit d'avant-garde. Aujourd'hui, poursuivons la conversation, nous voilà à l'aube des années 80.
À l'agence, j'avais Diego Masson et ensemble Musique Vivante. Donc toute la grande musique contemporaine, j'ai travaillé avec Maurizio Kagel, j'ai travaillé avec Berlioz, mais là j'étais très à l'aise avec ces gens-là, ça se passait très bien, j'ai adoré travailler avec Maurizio Kagel, j'ai ri, mon Dieu, c'était formidable, on a monté un spectacle ensemble qui s'appelait Variété, on a fait tous les cabarets du soir... Avec Diego, on a fait des tournées aussi. J'ai fait
et ça, ce travail de la création, Jeannine Rose, aussi, d'être aux prises avec le créateur et pas l'interprète, absolument. C'est quand même pas tout à fait pareil.
Mais moi, je me rendais pas compte de qui était Kagel. Hein. Pour moi, c'était un des compositeurs favoris de Diego Masson. Ça s'arrêtait là. Et là, j'ai retrouvé un artiste que j'avais pas vu depuis des années et des années, que j'avais rencontré en 66, 67, 68, qui était Michel Portal. C'est comme ça que j'ai retrouvé Portal et puis par un jeu de circonstances, je suis devenue son agent pour le classique, le jazz et la musique contemporaine.
Quand vous l'aviez connu, Portal, il n'était pas forcément à la clarinette, il était plutôt au saxophone.
Il faisait de la clarinette, il passait les concours, etc. Mais il faisait de la variété pour manger. Mmh. Et notamment, c'est lui qui joue dans Pierre au saxophone avec Barbara. Donc moi, je l'avais connu à cette époque-là. Et on s'est retrouvés des années ensemble. Et ça sera la première année où il ne jouera pas, mais il a joué depuis le début tous les ans. Et c'est quelqu'un que j'admire énormément. Je veux dire. C'est musicalement, pour moi, c'est un homme tellement libre. Il est libre dans sa façon de faire de la musique. Il est libre quand il joue Mozart. Il est libre quand il joue Stockhausen ou quand il joue du Portal. C'est sûrement une rencontre importante pour moi, musicalement, sur le plan instrumental.
Poly-instrumental.
Oui. Puis me fait rire, alors. Moi, les artistes qui me font rire, c'est sacré, hein.
Il pleut. Il pleut sur les jardins à l'envi, sur les roses de la nuit. Il pleut des larmes de pluie. Il pleut et j'entends le clapotis du bassin qui se remplit. Oh mon Dieu, que c'est joli la pluie. Quand Pierre rentrera, tiens, il faut que je lui dise que le toit de la remise a fui. Il faut qu'il rentre du bois car il commence à faire froid ici.
Pierre. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes découragé?
J'ai eu des moments de pas de découragement, mais j'ai eu des moments de grande douleur. Quand j'ai vécu comme un abandon et une trahison le départ de certains artistes de mes programmations. Maintenant, c'est fini, hein. Je vous dis tout de suite, je ne retourne pas voir mon gastro-entérologue tous les 8 jours. Mais j'ai eu cette période d'apprentissage qui a été très 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 dure. Ça m'a pas découragée, ça m'a rendue malade. Mais vraiment malade. Découragée, non. Parce que si quelque chose fonctionnait pas bien, Le jour où j'en ai eu assez de faire de la musique vraiment, et que Michel Franck était au bureau, j'ai fait du théâtre avec Jean Rochefort. J'ai fait mon hommage à Fernand Reynaud. On a tourné pendant 2 ans. On a fait 3 mois tous les jours dans un théâtre. Quand vraiment, vraiment, j'avais le spleen, j'ai fait les Rita Mitsuko. On a fait un disque avec l'amoureux dimanche matin, dimanche après-midi. Ou alors Petrucciani, son album Théâtre des Champs-Élysées. Il y a toujours le moyen de trouver une façon de contourner l'ennui, je dirais. Une espèce de routine. Je peux être découragée affectivement, mais professionnellement, non, parce qu'il y a tellement de choses possibles. Hein. Puis je dis toujours, je pourrais m'arrêter de faire de la production, il y a tellement d'autres possibilités.
Mais affectivement, on s'attache, je veux dire, les artistes, cette vie que vous aimez de théâtre, de spectacle vivant, de ces heures qu'on passe avant dans les lieux, de voir les artistes dans leur loge, de les voir accéder à la scène sous la lumière, on n'est pas des pantins, donc ça fait partie du risque justement du métier, c'est que le cœur souffre aussi.
Oui, puis surtout quand on les a aidés à grandir. Je ne me sens responsable d'aucune carrière, hein. Ils auraient fait carrière sans moi, mais il y a tout le parcours. Parcours où ils sont inconnus et que vous y croyez et que tous les ans vous construisez quelque chose, vous construisez quelque chose. Et aller au-delà du sentiment de la trahison s'il y a un souci, quoi. Il faut dépasser le stade. Et je me dis, j'ai pas eu d'enfant. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas eu d'enfant, mais j'ai eu des artistes. Parce que j'imagine que quand on élève des enfants et puis qu'un jour ils sont grands, ils s'en vont, il y a des choses peut-être un petit peu similaires, d'une autre violence. Mais il y a un peu de ça. On se sent trahi. Il peut y avoir une grande douleur. Mais je vous dis là maintenant, plus ou moins depuis l'arrivée de la Philharmonie de Paris, j'ai appris à me ménager.
Parce que la carte a changé.
Ah oui, la carte a changé, le mode d'emploi a changé, les gens ont changé. Je ne suis plus dans le spectacle là, je suis dans autre chose. Le problème que j'ai eu très vite et que j'ai compris, c'est que moi j'avais pris l'habitude de beaucoup travailler donc sur une carrière d'artiste, de développer. Concert dimanche matin, ensuite il passait le soir, mais l'année suivante il venait le dimanche matin, ce qui crédibilisait les jeunes que je présentais et qui sur le plan financier permettait l'équilibre. Avec la disparition de certains artistes le dimanche matin qui ne veulent plus venir le dimanche matin, alors que pendant des années, ça a été une tradition. On a eu le relais, on passe le relais. Là, ça pouvait me mettre en déséquilibre financier. J'ai un chiffre d'affaires à faire. Pas de subvention, hein, y a rien. Hein. Donc, j'ai que les fauteuils. J'ai que les fauteuils et c'est pas toujours évident. Mais il y a des fidélités qui restent. Et pour moi, et pour le confort de ce que je leur apporte. Hein. Y a quand même des artistes qui travaillent avec moi. Depuis plus de 20 ans. Hein. Les Berg, on a travaillé 23 ans ensemble jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent.
Je me souviens du dernier concert des Berg.
Oui, Valgoire, c'est jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et ça, c'était des piliers. Il n'y a pas de sirène hein, pour eux. C'était leur maison. Quoi. Moi, tout artiste qui vient au Théâtre des Champs-Élysées ou quand c'était au Rond-Point, à Orsay, j'en ferai une maison hein, avec une équipe à leur service. C'est pas la même chose du tout que certaines programmations dans d'autres structures. C'est une autre démarche. Ils ont pas cette maladie de la scène, du relationnel, comme je peux l'avoir. Parce que si j'ai pas ça, moi...
c'est juste aussi, je pense, un élément qui est quand même aussi important, qui est votre frère, parce qu'on l'a pas dit encore, mais votre frère, il va chanter, enfin, il va être producteur de musique, alors, aussi chanteur avec un pseudonyme.
Oui, bon, mon frère, c'est pathétique. Là, c'est le grand désespoir de ma vie, parce que déjà, moi, à 8 ans, j'avais la responsabilité de mon frère, qui était difficile, plutôt agité, pourri par la famille, par les femmes. Puis j'avais pas le choix, c'était comme ça. Il allait à la montagne faire du ski et moi j'étais aide-monitrice dans une colonie. Je veux dire, il y avait vraiment deux poids deux mesures. Je me dis parfois avec du recul, comment j'ai pas eu envie de le tuer, parce que. Mais non, je l'ai eu sous ma responsabilité. Puis les années ont prouvé que même avec toute sa célébrité à un moment donné, ou l'argent qu'il a gagné, c'est encore moi qui m'en occupe. Parce que donc à 17 ans, il gagne le jeu de la chance. Il est battu par Mireille Mathieu. Mais il enregistre quand même un disque sous le nom d'Ivrose et de Bossa Nova. Parce que on aime beaucoup la Bossa Nova musicalement. Et ça marche pas. Et quand moi j'entre chez Barclay, je le fais entrer comme directeur artistique. Et là, comme il a un sens absolument incroyable, il va s'occuper de Pierre Vassiliou et de Michel Delpech. Et il va notamment produire le grand tube de Michel Delpech, White is White. Et en même temps, il est avec une bande de copains qui s'appelle Michel Berger, Claude-Michel Schoenberg. Et un jour, pour rire, il décide de faire un tube. Et comme à l'époque, il n'y a que mon frère qui est chanteur, c'est lui qui va chanter et on lui donne un pseudonyme. On appelle mon frère Jean-François Michael. Et ils font un disque qui s'appelle Adieu Jolie Candy aux éditions Vogue. Moi, je rigole parce que c'est une blague. Et je lui dis, écoute, t'en vendras pas deux. Europe, RTL, enfin, c'est même pas encore RTL, c'est Radio Luxembourg, je crois. Ils foutent ça aux ordures, c'est épouvantable. La chanson marche dans les boîtes de nuit de façon absolument incroyable. Arrive le mois de septembre. Il commence à en vendre 1000 par jour, 5000 par jour, 10 000 par jour. Et puis, il arrive à 500 000. Personne ne sait qui chante. Le métier entier se demande qui c'est. Parce qu'il y a deux numéros 1 au hit parade qui se battent l'un contre l'autre. C'est Adieu Jolie Candy et White is White. Et Delpech ne sait pas que c'est mon frère qui chante. Il va finir par le découvrir. Ça va faire une campagne de publicité absolument extraordinaire. Et mon frère va être engagé à l'Olympia pour chanter sous Jean-François Michael. Les galas qui arrivent, il quitte Barclay en tant que directeur artistique. Et à l'Olympia, il décide qu'il ne chantera pas Adieu Jolie Candy, qu'il chantera la Bossa Nova. Et le premier soir, à la sortie, Cocatrix lui a dit « Si tu ne chantes pas Adieu Jolie Candy, ce n'est pas la peine de revenir demain. » Et là, il se lance comme ça pendant 10 ans, où Adieu Jolie Candy, et puis d'autres tubes qu'il a vendus aussi, il a vendu plusieurs millions de disques. Beaucoup d'argent, le show business, moi je ne le vois pas pendant 10 ans à peu près. Parce que c'est une souffrance absolument épouvantable. Et puis il finit par faire tellement de sottises, de gestion, il a beaucoup de soucis. Et puis, il a toujours ce côté producteur, directeur artistique. Et il va commettre un tube mondial. Il va faire ouragan, comme un ouragan, avec Stéphanie de Monaco. Donc il va de nouveau avoir son heure de gloire en tant que producteur et d'autres artistes aussi. Pour ensuite que ça retombe, voilà. Donc, c'est pas un homme heureux, quoi. Il a pas chanté ce qu'il avait envie de chanter. Autant c'est un directeur artistique et producteur génial, autant je suis pas certaine que ce soit un chanteur extraordinaire sur scène. C'est une grande douleur pour moi. Très, très, très grande douleur.
Votre mère l'a vue sur scène ?
Ah oui, mais ma mère, elle avait 50 photos dédicacées qu'elle avait signées elle-même au nom de Jean-François Michael, qu'elle distribuait partout. Mais elle ne savait pas du tout ce que moi je faisais. Quand je lui ai envoyé la première invitation du concert dimanche matin où il y avait marqué Jean-Louis Barrault et Jeanine Rose vous invite au concert du dimanche matin, elle m'a demandé pourquoi je lui avais envoyé. Elle n'a même pas vu mon nom.
Adieu jolie Candy, c'est à Orly que finissent les vacances à Paris. Adieu jolie Candy, une voix t'appelle, c'est l'heure déjà de t'en aller.
France Musique, les grands entretiens de Jeanine Rose.
Adieu, jolie Candy.
On vous imagine comme ça, très citadine, très ancrée dans la ville de Paris, qui aimait marcher des heures durant le long de la Seine, qui allait volontiers à pied travailler au théâtre, etc. Mais est-ce qu'il y a aussi de ce reste de ces années un peu rêvées de petite enfance où votre père était encore là, cet amour de la campagne, de faire des kilomètres le matin? Est-ce que c'est aussi quelque chose, vous cultivez un jardin quelque part, vous
ça
avez un ailleurs?
Ça n'a pas disparu. Ça, j'ai eu pendant 10 ans une maison en Provence, avec un grand jardin que j'ai planté, où j'ai planté des oliviers, qui était avec une vue à 360 degrés. Et je fais les voyages. Enfin, là, depuis 2 ans, non, mais je fais les voyages. C'est le désert de Namibie, c'est 5000 mètres d'altitude au Pérou. C'est indispensable. En Inde, je suis allée 9 fois pour faire des grands, grands, grands voyages dans des territoires complètement à nu, c'est des espaces, c'est des nouvelles couleurs, des nouvelles odeurs, c'est des souvenirs extraordinaires au Pérou, 5000 mètres d'altitude, on est là, plusieurs milliers, à 5 heures du matin, à attendre que les condors sortent pour aller chercher à manger, puis ils sortent pas. Et puis d'un seul coup, il y a une voix qui s'élève et qui commence à chanter le Condor Passa de Simon & Garfunkel. Et vous avez dans cet endroit absolument immatériel, à 5000 mètres d'altitude, 6 heures du matin, plusieurs milliers de personnes qui se mettent à chanter le Condor Passa. C'est pas les quais de la Seine, mais c'est un espace absolument, absolument incroyable. Vous avez la musique qui s'élève comme ça. On n'a jamais vu les condors, hein. C'est levé pour rien. Mais c'est formidable. Quand le Louvre d'Abu Dhabi s'est ouvert, j'ai fait l'aller-retour, hein. Je suis partie voir le Louvre. Ça m'a permis d'aller dans le désert, à la fois voir le Louvre et parce que j'étais curieuse et puis en même temps dans des espaces qui sont loin de moi et surtout des langues que je comprends pas. Pour moi, déjà, c'est une évasion formidable d'aller dans des pays où je ne comprends pas la langue. Et je fais aucun effort. Absolument aucun effort. Bon, s'il faut vraiment parler, on va parler anglais, mais je fais aucun effort. C'est un repos de ne pas choper un seul mot qui va vous déclencher quelque chose dans la tête. C'est extraordinaire pour moi, ça.
Vous allez au cinéma, du coup, quand vous êtes à l'étranger, même quand vous ne comprenez pas la langue?
Je suis allée en Inde. Ah ben j'ai fait Bollywood aussi, hein. J'ai eu ma période Bollywood, hein. J'ai fait venir au Théâtre des Champs-Élysées le plus grand artiste de Bollywood, Amitabh Bachchan, c'est Dieu vivant, hein. Il a des temples et tout, je l'ai fait venir chanter au Théâtre des Champs-Élysées les poèmes de son père, tout ça via internet, enfin le truc complètement délirant à l'indienne quoi, j'ai eu ma dose, j'ai fait le plein de tous les territoires que je voulais faire et... Mais j'aimerais beaucoup retourner au Japon. Je suis comme Piotr Andrzejewski, j'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup la culture et je rêve d'aller dans les montagnes, d'aller dans un ryokan, faire retraite. Ça, j'ai pas encore réussi.
Et est-ce qu'à un moment, vous ferez retraite ?
Je ne crois pas. Je dis que pour l'instant, je programme jusqu'à 2023, mais je vais bientôt attaquer 23-24. J'ai bon pied, bon œil. J'ai ma fondation avec mes biens personnels. J'aide des projets, par exemple Philippe Jarouski pour l'Académie depuis 2 ans. C'est moi qui achète les instruments de musique. L'année dernière, j'ai acheté la bibliothèque de la maison d'arrêt de femmes de Versailles. J'aide financièrement un atelier de photo dans le 20e. Et là, on a commencé à aider à Marseille une école de cinéma. J'ai plein de petits projets comme ça qui me permettent de rencontrer des gens. Parce que je suis quand même quelqu'un très seul, je vis seul. Et si je m'arrête de travailler, ça sera comme quand j'ai cessé de travailler avec Barbara, mon téléphone ne sonnera plus et on ne me prendra plus au téléphone. Je n'ai absolument aucune illusion. Donc c'est à moi de créer des liens sociaux et de rencontrer des gens avec mes moyens de façon totalement autonome et indépendante, c'est-à-dire avec mon propre bien.
Et de transmettre.
Oui.
Vous disiez que vous aviez eu des artistes et pas d'enfants.
Oui.
Je me demandais si jamais, à un moment, c'était posé la question comme d'un choix, de se dire...
Oui, c'était un choix, mais je pense aussi que c'est un choix dû à l'échec de ma relation avec ma mère. J'avais très peur d'être comme elle. Je crois que mon analyse est la bonne. J'étais très angoissée et n'ayant pas reçu, je ne savais pas comment on pouvait donner. Par contre, je savais donner aux artistes. Pour pouvoir donner, il faut en partie quand même avoir appris à recevoir. Et c'est pas si évident que ça, parce que peut-être que ma mère m'a donné, mais que je n'ai pas su recevoir à sa façon. Mais ça m'a accompagnée toute ma vie. Ça m'a permis aussi de comprendre beaucoup de choses pour les artistes, comme dans leur situation familiale. Pourquoi ils vont réagir de telle et telle façon, on va au-delà du contrat et on va au-delà du caprice. Il y a des artistes difficiles, il y en a qui ne le sont pas. Il faut, dans un cas comme dans l'autre, essayer de comprendre, quoi.
En tout cas, de Jean Villard, vous avez su recevoir et donc, sur ce terrain-là, vous avez su donner beaucoup.
Oui.
Merci beaucoup, Jeanine Rose, merci. C'est avec Jean-Claude Penthier dans une romance sans parole signée Gabriel Fauré que se termine cette série des grands entretiens avec Jeanine Rose. Réalisation Christine Amado, prise de son Julien Calvas, mixage Jean-Benoît Tétu, attaché de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.